France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une semaine à la Chartre-sur-le-Loire. Les carnets sont en public dans ce village de la Sarthe, main dans la main avec le jeu des 1000 euros, pour un inventaire non exhaustif d'initiatives dans ce beau département 72. Aujourd'hui, je donne la parole à une créatrice de bijoux très particuliers. Ses bracelets, ses pendentifs, ses boucles d'oreilles sont en tesson de faïence. Elle récupère des assiettes brisées notamment et leur donne une autre vie dans un territoire où la faïence est toute une histoire. Malicorne sur Sarthe. Ensuite, on parlera de sororité agricole avec une association qui entend briser l'isolement des femmes en ruralité. Elles s'appellent les Fameuses. Soyez les bienvenues.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et la Sarthe ne nous déçoit pas, le public est venu nombreux. Bonjour à tous et merci pour cet accueil très chaleureux. J'accueille mes invités, Clélia Chautard. Bonjour Clélia.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets, vous êtes créatrice de bijoux et artisane d'art. On va commencer avec vous. D'abord un petit bonjour à ma deuxième invitée, Élodie Choplin. Bonjour Élodie.
Bonjour.
On parlera avec vous tout à l'heure de solidarité agricole. Alors Clélia, c'est une très belle histoire que la naissance de votre atelier Vézanne à Malicorne-sur-Sarthe. Il faut commencer par préciser que Malicorne, en plus d'avoir un très joli nom, a une histoire très liée à la faïence. Vous vivez sur les rives d'une rivière, la Vézanne, qui est un affluent de la Sarthe. Et un beau jour, votre fille a trouvé des morceaux de faïence dans le jardin. Racontez-nous la suite.
Eh bien, c'est effectivement ça. Alors en plus, là, je fête les 5 ans de l'atelier Vézanne. Donc je suis très heureuse d'être avec vous pour fêter les 5 ans. Donc effectivement, en 2020, ma fille Garance et son petit frère ont trouvé des tessons de faïence, donc des morceaux, des brisures de faïence dans notre jardin, puisque nous habitons à côté des plus vieux ateliers de notre village qui datent du XVIIIe siècle, 1747 plus précisément. Et en trouvant ces merveilleux tessons dans le jardin et puis dans la Vézanne, hein, dans ce petit ruisseau qui coule aussi en contrebas des faïenceries, nous avons retrouvé un morceau d'un très vieil encrier qui avait plus de 100 ans. Et ce morceau de faïence révélait un magnifique personnage. Et voilà, c'est ce morceau qui m'a vraiment donné envie de faire ce projet, de sublimer, de valoriser la faïence ancienne au travers de bijoux contemporains.
Mais que faisaient ces débris de faïence dans la rivière, Clélia?
Eh bien, autrefois, les faïenciers jetaient les rebuts de faïence dans la terre, mais aussi dans le marais et dans ce petit ruisseau qui était vraiment à côté des faïenceries.
Vous êtes venue, Clélia, avec quelques échantillons, des tessons de faïence. On a également une assiette pleine de trous sur la table. Et puis vos bijoux, qui sont donc de la récupération, du réemploi de faïence. Quel sens mettez-vous dans ce geste de récupération?
Alors en fait, ma volonté, c'est vraiment de valoriser, de sublimer, de faire porter en quelque sorte notre histoire.
Alors, on porte un bijou.
Voilà, on porte un bijou. Donc ce n'est plus une faïence qui reste dans le meuble de famille, mais on est véritablement sur une faïence que l'on fait vivre au travers de bijoux uniques aussi, hein, puisque chaque bijou, moi je fabrique entièrement à la main et je le conçois comme un peintre. Moi je suis peintre, j'ai fait les beaux-arts, donc je conçois ces bijoux comme un peintre. Donc voilà, c'est des petits tableaux que l'on porte en valorisant des faïences qui peuvent dater du 19e jusque dans les années 1950 à peu près.
Est-ce que vous pensez aux vies précédentes de l'objet quand vous l'avez entre les mains, quand vous le transformez en un bijou?
Ouais, j'imagine, et ça c'est très fort effectivement. Alors moi, ayant été peintre sur faïence, je sais ce que représente le geste de fabriquer une faïence, hein. C'est un métier très très complexe, donc c'est une façon de rendre hommage aussi aux artisans qui ont œuvré à l'époque, mais également, et tout à fait Dorothée, aussi à l'histoire de famille qu'il y a eu derrière. Donc j'ai aussi beaucoup de plus en plus de personnes qui viennent à l'atelier, qui m'apportent une assiette de famille, et ensuite je vais concevoir, fabriquer un bijou unique. On va porter son histoire personnelle.
Et quel est votre geste préféré dans le processus de création?
Ah, c'est l'étape de conception. En fait, pour fabriquer un bijou, pour moi, c'est une vingtaine d'étapes, hein, une grosse vingtaine d'étapes. Donc on va voir progressivement le bijou prendre forme, mais c'est toute l'étape de conception. conception, puisque bien souvent, il y a des... Voilà, je raconte une histoire. Donc
ce que vous appelez la conception, c'est de dessiner le bijou, tout simplement ?
Alors, c'est d'identifier les motifs que je vais ensuite découper.
Donc, vous les découpez, vous y ajoutez de l'or, de l'argent, et ça devient un bijou pièce unique.
Voilà, je fabrique les supports qu'on appelle les cabochons, qui vont venir soutenir, en fait, la faïence. Et ce cabochon, qui est entièrement fabriqué dans mon atelier, brasé à l'argent, sera ensuite plaqué à leur fin en 24 carats par une entreprise. Donc c'est un partenariat avec une entreprise française du patrimoine vivant.
Ces bijoux sont de l'artisanat d'art. Ils sont en vente en ligne sur votre site internet. Également dans votre boutique à Malicorne-sur-Sarthe. Dans les boutiques du château de Versailles et du château de Chambord également. Et puis vous allez bientôt être exposé à New York, paraît-il.
Oui, alors là c'est ma première communication aujourd'hui.
C'est exclusif.
Donc c'est exclusif. En effet, j'ai été invitée par Bryna Pombe, qui est une conservatrice du Musée d'art et de design de la ville de New York, qui organise chaque année un événement international, un événement majeur autour du bijou contemporain. Donc ça aura lieu du 5 mai au 9 mai, donc au Musée d'art et de design de New York.
Donc depuis un petit morceau d'assiette cassée dans votre jardin jusqu'à une exposition internationale de bijoux.
Oui,
c'est pas mal.
C'est la vie.
Qu'est-ce qui vous rend fière, Clélia ?
Qu'est-ce qui me rend fière, c'est de poursuivre l'histoire, en tout cas. Voilà, de rendre hommage, de sublimer. Les choses se font naturellement, et puis de faire ça aussi en famille, de partir d'une trouvaille qui a été faite par mes enfants, je trouve que c'est fabuleux.
L'atelier Vézanne, c'est à Malicorne-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Merci beaucoup, Clélia Chopin.
Merci à vous.
France Inter. Carnet de campagne.
Et j'accueille ma deuxième invitée du jour. Bonjour Élodie Choplin.
Bonjour.
Vous êtes agricultrice. Exactement. Dans la Sarthe, productrice de lait, et vous appartenez à une association qui s'appelle l'Odyssée des Fameuses. Alors l'orthographe est un peu complexe. Hein. Fameuse, ici s'écrit comme femme, F-E-M, et ensuite me, comme le cri de la vache.
Oui.
Les Fameuses.
Oui.
C'est une asso qui invite les femmes du monde rural à se parler, à se rencontrer, à se serrer les coudes. Tout est parti, je crois, d'une initiative de solidarité paysan, qui est une association dont on a déjà parlé dans cette émission, une asso qui apporte de l'aide bénévole aux agriculteurs et aux agricultrices, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. D'ailleurs, il y a de l'accompagnement psychologique aussi pour sortir de l'isolement, pour éviter le burn-out chez les paysans. Et donc, cet asso, Solidarité Paysan, développe un jour un groupe de parole pour les femmes et vous y participez. Comment ça s'est passé pour vous au départ, Élodie ?
Au départ, je m'attendais juste à des réunions avec des femmes où on puisse échanger sur nos quotidiens, comment trouver l'équilibre professionnel, personnel, voilà, nos difficultés quotidiennes. À l'époque, je me sentais isolée dans le sens où mon mari travaille à l'extérieur et c'est moi qui suis agricultrice. C'est pas forcément un schéma habituel, c'est souvent monsieur agriculteur et madame qui accompagne ou qui est agricultrice avec son mari. Mais voilà, moi j'étais un peu dans un schéma un peu particulier, donc oui, je me sentais un peu seule pour savoir justement comment trouver cet équilibre professionnel et personnel pour que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde soit heureux. Voilà pourquoi je me suis lancée dans cette démarche-là. Donc l'isolement, il est venu plus progressivement, où on se rend compte finalement que nos quotidiens, avec la pression qui vient un peu de tous les côtés, que ce soit financier, technique, humain, sociétal, enfin tout ce qu'on veut, on est omnibulé par notre travail. C'est 6h30 le matin, 19h30 le soir. Tu rentres, ben t'as les enfants, t'as ta maison, t'as tout ce qu'il y a à gérer. Tu te couches, t'es mort. Et le lendemain, tu te lèves, tu repars. Et donc, au final, on se rend compte qu'on s'oublie. Avec le temps, on s'oublie. Voilà, on n'est plus, on devient plus des femmes, on est juste des machines de guerre. Hein. Donc il faut bousculer les choses pour reprendre sa vie en main.
Et ça aide, j'imagine, de rencontrer des femmes qui vivent la même chose, de prendre un peu de recul sur sa propre situation et d'échanger avec des pères.
Oui, c'est ça. On se croit un peu seul dans cette situation et au final, on se rend compte dès les premières réunions, et c'est ça qui m'a fait accrocher au projet, c'est qu'on se rend compte que quel que soit l'âge, quel que soit le parcours qu'on a, le parcours de vie, on ressent et on vit plus ou moins les mêmes choses. Et c'est ça qui résonne en chacune de nous. On se dit, bah merde, finalement, je suis pas toute seule, quoi.
Et pourquoi seulement des femmes, alors ? On doit vous le demander souvent.
Eh bien, parce que on voit quand même beaucoup les hommes. De manière générale, c'est souvent eux qui sont mis en avant, voilà, que ce soit dans les réunions professionnelles, que ce soit dans les manifestations, que ce soit un peu partout, ce sont les hommes. Et comme justement le fait qu'elles vivent la même chose, ça aide à libérer la parole.
Vous m'avez dit juste avant de monter sur scène que vous n'auriez jamais pu faire un truc pareil avant l'Odyssée des Fameuses.
Ah, oui.
Ça vous a aidé à prendre la parole en public.
Ouais. Alors on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais quand on vit des situations un peu exceptionnelles, c'est là qu'on se rend compte que l'association nous a aidé à faire bouger des choses en nous. Il y a quelques années, jamais je me serais sentie capable de venir là. Pour vous.
L'Odyssée des Fameuses organise des sorties, vous l'avez dit, des activités, un voyage humanitaire au Maroc. Ce sont à chaque fois des souvenirs très marquants pour vous.
Oui, parce que l'idée aussi de notre groupe, c'est de rester vraiment dans la simplicité, dans des choses de la vie courante, mais c'est aussi d'aller chercher un peu le challenge pour se sortir un peu de, pour nous pousser un peu dans nos retranchements. Et du coup, le voyage au Maroc, le voyage humanitaire, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et en même temps, fallait nous faire monter dans l'avion, parce que faire 50 kilomètres autour de nos exploitations, c'est facile, mais nous faire passer les frontières, ça l'est tout de suite.
Mais justement, je me demandais, en tant qu'éleveuse bovine, vous avez énormément de travail, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous dégagez du temps pour cette association?
C'est le soir. Voilà, c'est le soir après la journée de travail. Tu laisses ton mari et tes enfants à la maison. Voilà,
ça va aller.
Pleine autonomie. Voilà, débrouillez-vous. Moi, je m'en vais. Voilà. En fait, c'est le fait de sortir une première fois qui est compliqué, de se dire bon, je laisse tout le monde derrière moi. Je sais pas dans quel état je vais retrouver la maison. Mais une fois qu'on a passé ce premier cap, derrière, on a envie d'une chose, c'est d'y retourner. On attend finalement la prochaine réunion ou la prochaine sortie pour se libérer. Donc, on part de choses simples, mais on va chercher le challenge à travers l'humanitaire, comme on a pu réaliser là en 2025.
Est-ce que vous invitez d'autres femmes, d'autres agricultrices à rejoindre votre Odyssée des Fameuses?
Oui, bien sûr. Ce qui nous réunit, c'est l'amour de la terre, principalement l'amour de la nature. Donc, les activités diverses qu'on peut proposer tourne autour de la nature, de l'environnement, du bien-être personnel. Et on sait que tout seul, il y a des moments où on a du mal à y aller, à franchir le cap. À plusieurs, c'est plus facile. Donc tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
Et l'association, je crois, a besoin de mécènes.
Oui.
On lance un petit appel.
Bien sûr. Donc on lance un appel pour des participantes. On lance un appel pour des mécènes. Nous, on est nés de rien. On ne sait pas du tout ce que c'était que le monde associatif. Donc tout est nouveau pour nous. Donc on lance des appels grâce à vous et à la visibilité que vous pouvez nous apporter, des partenariats, enfin tout ce qui peut nous permettre de vivre et de se réunir, de partager, de profiter et d'avoir une pleine confiance en soi.
On sent vraiment que vous êtes devenue quelqu'un d'autre grâce à cet asso, Elodie.
Je sais pas, peut-être, mais ça me fait énormément de bien et donc j'espère pouvoir avoir la chance d'apporter ça à d'autres femmes.
L'Odyssée des Fameuses, c'est dans la Sarthe. Je rappelle que ça s'écrit F-E-M, plus loin M-E-U-H-Z. C'est compliqué, votre nom.
C'était le petit jeu de mots, oui.
Un grand merci, Elodie Choplin.
Merci à vous.
Et bonne journée.
Pour l'invitation.
Et merci au public de la Chartre sur le Loir.